Chapitre 30. Germantown, mardi 30 décembre 1980. Gentry se demanda s'il n'était pas en train de devenir fou. Alors qu'il courait vers Community House, il regretta que Saul ne soit pas conscient pour qu'il puisse en discuter. Il avait l'impression que le monde était devenu un cauchemar de paranoïaque dans lequel toutes les relations de cause à effet s'étaient complètement rompues. Le jumeau, répondant au nom de GB, arrêta Gentry à un demi-pâté de maison du foyer. Le shérif fixa le canon du pistolet bon marché braqué sur lui et ordonna sèchement « Laisse-moi passer, Marvin attend mon retour. » « Ouais, mais il attend sûrement pas que tu lui ramènes un blanc mort. »«
Il n'est pas mort, et il peut sans doute nous aider. Mais s'il meurt, je veillerai à ce que Marvin te tienne pour responsable. Maintenant, laisse-moi passer. »
GB hésita. « Va te faire foutre, sale flic, » dit-il finalement, mais il s'écarta quand même. Gentry dut négocier avec trois autres sentinelles avant d'atteindre l'immeuble. Marvin avait élargi leur périmètre de défense sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Tout véhicule inconnu garé dans les parages devait être incendié si son propriétaire refusait de l'évacuer. Une fourgonnette verte, occupée par deux blancs à l'avant et Dieu sait combien d'autres à l'arrière, avait obtempéré 30 secondes après l'ultimatum que Leroy avait adressé à son conducteur. Peut-être était-ce le bidon d'essence sans plomb qu'il brandissait dans sa main droite qui avait convaincu le blanc de filer sans demander son reste. Le cauchemar avait débuté lundi soir. Marvin et les autres avaient regagné Community House en empruntant des ruelles et des cours dérobés. À l'issue de la bataille rangée qui s'était déroulée dans le bâtiment obscur, Leroy avait le corps criblé de petits plombs, et tous les membres de la troupe, Marvin excepté, étaient dans un état proche de l'hystérie. Ils avaient traîné les corps de Calvin et de Trout à l'intérieur de l'immeuble, Marvin envisageant d'envoyer Jackson ou Taylor les récupérer avec le camion de Woods. Mais la confusion qu'ils avaient trouvée à leur retour au foyer avait retardé cette expédition. Lorsque le camion avait fini par se mettre en route, peu de temps avant l'aube, les cinq cadavres avaient disparu, et il ne restait que des flaques de sang anonymes au premier et deuxième étage. Aucun flic ne se trouvait sur les lieux. La panique régnait dans Community House. On tirait sur tout ce qui bougeait. Quelqu'un avait éteint les auto-incendiés, mais un nuage de fumée flottait encore au-dessus du pâté de maison, telle une chape de mort.
« Il est venu ici, mec! Le monstre blanc, mec, ici, dans la maison! Il a eu ce connard de Woods et il a blessé Kara! C'est grave, mec! Et Raji l'a vu poursuivre la photographe dehors, mec, et... »
bafouilla Taylor lorsqu'ils arrivèrent.
« Où est Kara ?»
rugit Marvin. C'était la première fois que Gentry entendait le jeune homme crier. Kara était en haut, dit Taylor, couchée sur un matelas derrière le rideau, grièvement blessée. Gentry les suivit à l'étage. La plupart des membres du gang contemplaient fixement le corps décapité de Woods sur la table de billard. Mais Marvin et Jackson se dirigèrent vers l'endroit où Kara, inconsciente, était soignée par quatre autres filles.
« Ça a l'air sérieux, » dit Jackson.
Le superbe visage de la jeune fille était presque méconnaissable. Son front horriblement enflé, ses yeux assombris par le sang qui coulait de sa blessure.
Elle devrait être à l'hôpital. Son pouls est trop faible et sa tension trop basse.
Hey, « Hé, mec !»
protesta Leroy en exhibant un bras et une jambe constellés de cerques sanglants.
« J'ai mal. Je vais aller avec toi pour me faire soigner et...
« Reste ici !» ordonna sèchement Marvin. « Rassemble-moi tous ces connards. Personne ne doit pénétrer dans le coin, pigé.
Dis à Sherman et à Eduardo de se manier le cul et d'aller à Docktown alerter Manny. Qu'il nous envoie les troupes qu'il nous avait promises l'hiver dernier, quand on l'a aidé dans cette histoire avec Pastorius, et on les veut tout de suite. Dis à Squeeze d'envoyer tous les nains et auxiliaires dans les rues, et tout de suite. Je veux savoir où se cache cette foutue sorcière vaudou. »
Tandis qu'il continuait à donner des ordres et que Jackson emportait Kara au rez-de-chaussée, Gentry attira Taylor dans un coin.
« Où est Nathalie ?»
Le jeune homme secoua la tête, puis laissa échapper un hoquet lorsque Gentry resserra son étreinte sur son biceps.
« Merde, mec ! Le monstre blanc lui court après ! Raji les a vus traverser l'esplanade et disparaître entre les immeubles, mec !»
Il faisait noir. On leur a couru après, mais on n'a rien vu.
Il y a combien de temps ? Gentry serra un peu plus fort.
Eh merde, 20 minutes, peut-être 25.
Gentry descendit en hâte au rez-de-chaussée et rattrapa Marvin avant qu'il s'en aille. Je veux mon revolver. L'autre le fixa de ses yeux bleu pâle aussi glacial que l'océan arctique. Ce fils de pute s'est attaqué à Nathalie et je veux lui régler son compte. Donne-moi le rugeur. Il tendit la main. Leroy fit glisser son fusil dans sa main droite. Il embraqua le canon sur Gentry et se tourna vers Marvin, attendant son ordre. Marvin dégaina le lourd revolver et le tendit à Gentry.
« Tue-le, mec !»«
Ouais !» Gentry remonta à l'étage, récupéra sa boîte de cartouches et rechargea l'arme. Les lourdes balles Magnum se mettaient presque automatiquement en place sous ses doigts. Il se rendit compte que sa main tremblait. Il se pencha et inspira à plusieurs reprises pour faire cesser les tremblements, redescendit au rez-de-chaussée en quête d'une lampe torche, puis s'enfonça dans la nuit. Saul Lasky reprit conscience alors que Jackson examinait sa blessure. « On dirait qu'on vous a opéré avec un ouvre-boîte, » dit l'ex-médecin. « Tendez votre bras droit. Je vais vous faire une injection de morphine pendant que je répare les dégâts. » Saul reposa sa tête sur le matelas. Sous sa barbe noire, sa peau et ses lèvres étaient blafardes.
« Merci.
Ne me remerciez pas, je vous enverrai ma note. Il y a ici des frères qui tueraient pour cette morphine. » Il fit une piqûre à Saul d'un geste vif et sûr. « Vous autres, pauvres blancs, vous ne savez pas prendre soin de votre corps. » Gentry se hâta de parler avant que la morphine n'endorme le psychiatre.
« Qu'est-ce que vous foutez ici, Saul ?»
Le vieil homme secoua la tête.
« C'est une longue histoire. Et il y a plus de gens qui y sont impliqués que je ne le croyais, shérif.
» On s'en est rendu compte.
« Savez-vous où se cache votre Oberst ?»
Jackson acheva de nettoyer la plaie et entreprit de la recoudre. Saul y jeta un bref regard, puis détourna les yeux.
« Non, pas exactement. Mais il est quelque part par ici, tout près. Je viens de rencontrer un noir nommé Jensen Luard, qui est au service de l'Oberst depuis plusieurs années. Les autres, Colben, Haynes, m'ont relâché en pensant que je pourrais les conduire à l'Oberst.
« Haynes ! Bon sang ! Je savais que ce salaud n'était pas clair. »
Saul s'humecta les lèvres. Sa voix était de plus en plus pâteuse, de plus en plus vague.
« Et Nathalie ? Elle est ici ?»
Gentry détourna les yeux, fusilla du regard l'ombre environnante.
« Elle était ici. Quelqu'un l'a attaquée, l'a capturée, il y a 24 heures. »
Saul tenta de se redresser. Jackson jura et le força à rester étendu.
« Vivante ?»
demanda Saul.
« Je ne sais pas.
J'ai passé les dernières 24 heures à fouiller tout le quartier. »
Gentry se frotta les yeux. Cela faisait plus de 48 heures qu'il n'avait pas dormi. « Il n'y a aucune raison de penser que Mélanie Fuller a épargné Nathalie après avoir assassiné autant de monde.
Mais je continue d'espérer. Une intuition. Si vous pouvez me dire tout ce que vous savez, alors peut-être qu'ensemble nous pourrons... »
Gentry s'interrompit. Jackson avait presque fini. Saul Lasky dormait à poing fermé.
« Comment va Kara ?» demanda Gentry en entrant dans la cuisine.
Marvin leva les yeux vers lui. Un plan de la ville était étalé sur la table, maintenu en place par des boîtes de bière et des paquets de chips. Leroy était assis près de son chef, enveloppé de bandages blancs, visible à travers les déchirures de sa chemise. Divers lieutenants allaient et venaient, mais il régnait dans le foyer une atmosphère de détermination sereine très différente du chaos de la veille.
« Ça ne va pas fort, » soupira Marvin. « Le docteur dit qu'elle est gravement touchée.
Cassandra et Shelley sont près d'elle en ce moment. Elles enverront quelqu'un si son état s'aggrave. »
Gentry acquiesça et s'assit. Il sentait les toxines envahir son organisme épuisé, plaquant une pellicule de lumière terne sur tout ce qu'il fixait. Il se frictionna le visage.
« Le type, là-haut, il va t'aider à retrouver ta femme ?»
Gentry scia.
« Je ne sais pas.
Il peut nous aider à retrouver la sorcière vaudou ?
Peut-être.
D'après Jackson, il sera en état de nous parler d'ici une heure ou deux.
Et tes hommes, ils ont trouvé quelque chose ?
C'est une question de temps, mec. Rien qu'une question de temps. Toutes les filles et tous les auxiliaires sont en train de faire du porte-à-porte. Une vieille dame blanche comme elle ne peut pas se planquer dans le coin sans que personne ne le sache. Dès qu'on l'aura dénichée, on sera prêt.
Gentry essaya de se concentrer sur ce qu'il voulait dire. Il avait de plus en plus de peine à trouver ses mots.
« Tu es au courant pour les autres, les fédéraux ?»
Marvin éclata de rire.
Un rire amer et glacé. « Je veux !» Il grouille dans tous les coins. « Mais c'est à cause d'eux que la télé et les flics du coin ne sont pas sur le coup, pas vrai ?»«
Sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont aussi dangereux que la sorcière vaudou. Certains d'entre eux ont les mêmes pouvoirs qu'elle. Et ils sont à la recherche d'un homme qui est encore plus dangereux.
Tu penses que c'est eux qui sont attaqués au Soul Brickyard, mec ?
Non.
Ils ont quelque chose à voir avec le monstre blanc ?
Non.
Alors ils attendront leur tour. Mais s'ils se mêlent de nos affaires, on leur réglera leur compte.
Il y a environ 40 ou 50 agents fédéraux en civil dans les parages. En règle générale, ces types-là sont armés jusqu'aux dents.
Marvin haussa les épaules.
Un adolescent fit irruption dans la cuisine et lui parla à l'oreille. Marvin lui donna brièvement ses instructions d'une voix calme et assurée. Le jeune homme repartit. Gentry prit une boîte de bière, vérifia qu'il y restait un peu de liquide tiède et en but une gorgée.
« Est-ce que t'as pensé à foutre le camp tant que c'est possible ? » demanda-t-il.
« Je veux dire, mettre tous tes copains à l'abri et laisser tous ces vampires se déchirer entre eux ?»
Marvin regarda Gentry droit dans les yeux et lui répondit d'une voix à peine audible.
« T'as rien compris, mec. Les Blancs, le gouvernement, les flics, les politiciens pourris du coin, ils ont jamais cessé de vouloir nous baiser. Ce que le monstre blanc est en train de faire, ça n'a rien de neuf. Mais c'est à nous qu'il le fait, et sur notre territoire, mec. Nathalie et toi, vous dites que c'est la sorcière vaudou qui est responsable. Et je pense que c'est vrai. Ça me semble vrai. Mais il n'y a pas que la sorcière vaudou. Derrière elle, il y a tout un tas d'autres types prêts à nous chier sur la gueule. Et ça fait longtemps que ça dure. Mais c'est le Soul Brickyard ici. Ceux qui ont été tués, Mohamed, George, Calvin, peut-être Kara, ils étaient des nôtres, mec. Et c'est pour ça qu'on va tuer le monstre blanc et cette salope de vieille sorcière. On n'a besoin de personne pour nous aider.
Mais si tu veux te joindre à nous, mec, t'es le bienvenu.
« Je veux me joindre à vous, » dit Gentry. Sa propre voix lui fit l'effet d'un 45 tours passant en 33.
Marvin hocha la tête et se leva.
Sa main était ferme lorsqu'il la posa sur le bras de Gentry, le forçant à se lever et le poussant vers l'escalier.
« Pour le moment, mon vieux, tu ferais mieux d'aller dormir. On t'appellera dès qu'il y aura du neuf. »
Jackson le réveilla à 5h30 le lendemain matin. « Votre ami est réveillé, » dit l'ex-médecin.
Gentry le remercia et s'assit sur le bord de son matelas, la tête entre les mains, essayant de se remettre les idées en place. Avant d'aller voir Saul, il descendit à la cuisine d'un pas mal assuré, se prépara du café dans une antique cafetière, puis remonta à l'étage avec deux bols ébréchés fumant. Une douzaine d'adolescents ronflaient sur des matelas ici et là. Ni Marvin ni Leroy n'étaient en vue. Saul accepta le bol avec reconnaissance.
« Quand je me suis réveillé, j'ai cru que tout ceci n'était qu'un rêve, » dit-il. « Je m'attendais à me retrouver chez moi, prêt à aller donner des cours à l'université, puis j'ai senti ceci. »
Il leva son bras bandé.
« Comment ça vous est arrivé ?» demanda Gentry.
Saul avala une gorgée de café.
« Voici ce que je vous propose, shérif. Nous allons passer un marché. Je vais commencer par vous livrer les informations les plus importantes en ma possession. Ensuite, ce sera votre tour. Si nos récits ont des points communs, nous les approfondirons. D'accord ?
D'accord. »
Ils parlèrent pendant une heure et demie, puis s'interrogèrent mutuellement pendant une demi-heure supplémentaire. À l'issue de cette conversation,
Gentry aida Saul à se lever et ils allèrent contempler les premières lueurs grises de l'aube derrière les barreaux d'une fenêtre.
« Demain, c'est le jour de l'an, » dit Gentry.
Saul leva une main pour ajuster ses lunettes et se rendit compte de leur absence.
« Tout ceci est incroyable, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
« Mais je suis sûr que Nathalie Preston est quelque part là-dehors, et je ne quitterai pas cette ville tant que je ne l'aurai pas retrouvée. »
Ils retournèrent près du matelas pour récupérer les lunettes de Saul, puis descendirent au rez-de-chaussée voir s'il y avait quelque chose à manger. Marvin et Leroy revinrent vers 10 heures du matin, en grande conversation avec deux portoricains élancés. Trois automobiles surbaissées attendaient au bord du trottoir, emplis de jeunes Chicanos qui contemplaient d'un air méfiant les jeunes noirs rassemblés sur le perron de Community House. Les membres du gang les regardaient d'un air aussi peu amène. La cuisine était devenue un poste de commandement où l'on n'entrait que sur invitation. 20 minutes après le départ des portoricains, on y convoqua Saul et Gentry. Marvin, Leroy, un des jumeaux et une demi-douzaine d'autres adolescents les fixèrent en silence.
« Comment va Kara ?» demanda Gentry.
« Elle est morte, » répondit Marvin.
Il se tourna vers Saul. « Jackson m'a dit que vous vouliez me parler. »
« Oui, je pense que vous pouvez m'aider à retrouver l'endroit où j'ai été retenu prisonnier. Ce n'est sûrement pas très loin d'ici. »
« Pourquoi ferions-nous ça ?»«
Cet endroit est le centre de contrôle des policiers qui quadrillent le quartier. »
« Et alors ? Qu'ils aillent se faire foutre ?»
Saul tirailla sur sa barbe. « Je pense que les policiers, les agents fédéraux, savent où se trouve Melanie Fuller. »
Marvin releva brusquement la tête.
« Vous en êtes sûr ?»«
Non, mais étant donné ce que j'ai pu voir et entendre là-bas, ça me paraît sensé. » « Je pense que l'Oberst leur a communiqué sa cachette pour une raison qui lui est propre. »«
Cet Oberst, c'est votre sorcier vaudou ?»«
Oui. »«
Il y a pas mal de flics du gouvernement qui traînent dans les rues. Est-ce que l'un d'eux saurait où se cache la sorcière vaudou ?»«
Peut-être, mais si nous pouvions pénétrer dans leur centre de contrôle et parler à l'un de ses occupants, je pense que nous aurions de meilleures chances de la retrouver. »
« Je t'écoute, mec, » dit Marvin.
« C'est un endroit dégagé, à moins de 10 minutes d'ici en voiture. Je pense qu'un hélicoptère s'y est posé et en a décollé à intervalles réguliers. Les constructions qui s'y trouvent ne sont que temporaires. Sans doute des mobile homes ou le genre de caravane qu'on trouve sur les chantiers. »
Saul portait un passe-montagne et des gants lorsqu'il sortit du foyer en compagnie de Gentry et de 5 membres de la bande. Colben et Haynes le croyaient sans doute mort, et Gentry lui avait suggéré de ne pas les détromper. Ils montèrent dans le camion de Woods et se dirigèrent vers Germantown Avenue, puis empruntèrent Charlton Avenue en direction du sud, obliquant ensuite à l'ouest vers une zone d'entrepôt.
« Il y a une Ford bleue qui nous suit, »
dit Leroy tout en conduisant.
« Vas-y, » ordonna Marvin.
Le camion traversa un parking encombré de détritus, puis s'engagea dans une ruelle, s'arrêtant près d'un appentis délabré, le temps que Marvin, Saul, Gentry et un des jumeaux descendent d'un bond pour se précipiter à l'ombre de son entrée. Le camion accéléra pour descendre la ruelle, puis vira sèchement dans la rue suivante. 20 secondes plus tard, une Ford bleue occupée par 3 hommes blancs passa en trombe devant l'appentis.
« Par ici !» dit Marvin.
Il leur fit traverser un no man's land de tonneaux et de poutres métalliques qui aboutissait à un petit cimetière de voitures où les véhicules compressés s'empilaient sur une hauteur de 10 mètres. Marvin et le jumeau atteignirent le sommet d'une pile en quelques secondes. Il fallut un peu plus longtemps à Saul et à Gentry pour y parvenir.
« C'est ça, mec ?»
demanda Marvin, alors que Saul prenait pied sur le sommet de l'empilement précaire, s'accrochant au shérif pour ne pas tomber. Marvin tendit au psychiatre une petite paire de jumelles. Saul glissa son bras gauche à l'intérieur de sa veste et observa la scène avec les jumelles. Une haute barrière de bois entourait un terrain grand comme un demi-pâté de maison. Vers le sud, on avait creusé des fondations et versé du béton dans le sol. Deux bulldozers,
Un excavateur et divers outils attendaient les ouvriers. Au centre de l'espace restant, trois mobilhomes formaient un E privé de barre centrale. Cette voiture aux plaques gouvernementales et une fourgonnette de Bell Telephone étaient garées à proximité. L'unité centrale du groupe de caravanes était hérissée d'antennes paraboliques. On avait délimité un espace circulaire avec des balises rouges et une petite manche à air pendait lamentablement au sommet d'un poteau en métal.
« C'est sûrement ça, » dit Saul Lasky.
Alors qu'ils observaient la scène, un homme en manche de chemise sortit de la caravane centrale et parcourut d'un pas vif les 20 mètres qui le séparaient des 3 toilettes mobiles installées près des voitures.
« C'est un de ces mecs que vous aimeriez parler ?» demanda Marvin.
« Probablement, » dit Saul.
Ils étaient sûrement invisibles au milieu des empilements de métal rouillé, mais Gentry et les autres se tapirent un peu plus derrière les essieux, volants et capots aplatis. Marvin consulta sa montre.
« Environ 5 heures avant la nuit. On attaquera à ce moment-là. »«
Nom de Dieu !» gronda Gentry. « On est vraiment obligé d'attendre aussi longtemps ?»
Comme pour lui répondre, un hélicoptère arriva du nord, décrivit un cercle au-dessus du terrain et se posa au milieu des balises. Un homme vêtu d'une épaisse parka en descendit et se précipita vers la caravane centrale. Saul reprit les jumelles à Marvin et eut le temps d'apercevoir le visage poupin de Charles Colben.
« Voilà un homme qu'il ne faut pas déranger, » dit-il. « Attendez qu'il soit parti. »
Marvin haussa les épaules.
« Fichons le camp d'ici, » dit Gentry. « Je vais partir tout seul à la recherche de Nathalie. »«
Non, »
dit Saul d'une voix étouffée par son passe-montagne.
« Je vous accompagne. »
« C'est son corps que vous recherchez ?»
demanda Saul Lasky alors que les deux hommes fouillaient les décombres d'une maison abandonnée. Gentry s'assit sur un mur de briques haut d'un mètre. Les derniers vestiges de la lumière du jour étaient visibles à travers les trous du plafond et du toit.
« Oui, je peux vous l'avouer. »«
Vous pensez que l'agent de Mélanie Fuller l'a tué et qu'il a abandonné son corps dans un endroit comme celui-ci ?»
Gentry baissa les yeux et sortit le rougeur de sa poche. Il était chargé. Le cran de sûreté était ôté. Le revolver était en parfait état de fonctionnement. Gentry l'avait soigneusement huilé ce matin-là. Il soupira.
Ce serait au moins une confirmation. Pourquoi la vieille l'aurait-elle épargné, Saul?
Saul trouva un bloc de béton sur lequel s'asseoir.
Un des problèmes que l'on rencontre lorsqu'on travaille avec des psychotiques, c'est que leurs processus mentaux ne sont pas aisément accessibles.
C'est sans doute une bonne chose. Si tout le monde comprenait le fonctionnement d'un esprit de psychopathe, nous-mêmes serions sans doute au bord de la folie.
Vous êtes sûr que la Fuller est psychopathe ?
Saul écarta les doigts de sa main droite. Il avait relevé son passe-montagne sur son crâne et semblait à présent coiffé d'un bonnet.
Toutes les informations en notre possession prouvent qu'elle est bonne pour l'asile. Mais si elle s'est enfermée dans une vision du monde pathologiquement pervertie, le vrai problème réside dans le fait que son pouvoir lui permet d'imposer cette vision au monde.
Saul ajusta ses lunettes.
C'était l'essentiel du problème avec l'Allemagne nazie. Une psychose est pareille à un virus. Elle peut se multiplier et se répandre librement si son porteur l'accepte et la transmet à son entourage.
Vous voulez dire que c'est à cause de gens comme votre Oberst et Mélanie Fuller que l'Allemagne nazie a fait ce qu'elle a fait ?
« Absolument pas. » Gentry n'avait jamais perçu autant de fermeté dans la voix de Saul.
« Je ne suis même pas sûr que ces êtres soient entièrement humains. Je les considère comme des mutations défectueuses, des victimes d'une évolution qui, durant presque 1 million d'années, a favorisé l'instinct de domination parmi d'autres types de comportements. Ce ne sont pas les Oberst et les Mélanie Fuller, ni même les Barent et les Colben, qui crée les sociétés fascistes orientées vers la violence.
Qu'est-ce que c'est, alors ?
Saul indiqua la rue, visible à travers les fenêtres cassées. Nos jeunes voyous estiment que plusieurs dizaines d'agents fédéraux sont engagés dans cette opération. À mon avis,
Colben est le seul parmi eux à être doué d'une fraction de cet étrange pouvoir mutant. Les autres laissent prospérer le virus de la violence parce qu'ils ne font qu'obéir aux ordres, ou parce qu'ils font partie d'une machine sociale. Les Allemands étaient des experts dans la conception et dans la construction de telles machines. Les camps de la mort n'étaient qu'une partie d'une gigantesque machine. Elle n'a pas été détruite, mais rebâtie sous une forme différente. Gentry se releva et se dirigea vers une brèche dans le mur. « Allons-y. On peut finir de fouiller ce pâté de maison avant la nuit. » Ils trouvèrent le lambeau de tissu parmi les cendres et les débris de deux maisons qui avaient été ravagées par un incendie, mais jamais rasées. « Je suis sûr que ça vient du chemisier qu'elle portait lundi, » dit Gentry. Il tripota le bout de tissu et balaya le tapis de cendres du rayon de sa lampe. « Pas mal de traces de pas par ici. On dirait qu'ils se sont battus là, dans le coin. » Ce clou a pu déchirer la manche de son chemisier si quelqu'un l'a projeté contre le mur à cet endroit. Ou si quelqu'un l'a porté sur son épaule. Le psychiatre serrait son bras gauche dans sa main droite. Son visage était blême. « Ouais. Cherchons des traces de sang ou... d'autre chose. » Les deux hommes fouillèrent les lieux dans la pénombre pendant 20 minutes, mais en vain. Ils étaient sortis des ruines et se demandaient quel chemin avait pu suivre l'agresseur de Nathalie dans le labyrinthe de ruelles et d'immeubles vacants, lorsque le jeune homme nommé Taylor apparut au bout de la rue. Il courut vers eux en agitant les bras. Gentry attendit sans lâcher son rougeur. Le garçon fit halte à 3 mètres d'eux.
« Hé ! Marvin veut que vous veniez au foyer tout de suite. Leroy a alpagué un des types des caravanes. Il a dit à Marvin où se trouvait la sorcière vaudou. »
« Grumblethorpe, » dit Marvin. « Elle est à Grumblethorpe. »«
Qu'est-ce que c'est que ce Grumblethorpe ?» demanda Saul.
Gentry et le psychiatre avaient rejoint la 30aine de personnes qui se pressaient dans la cuisine. D'autres membres de la bande se pressaient dans le couloir et les pièces du rez-de-chaussée. Marvin, assis à la tête de la table, éclata de rire.
« Ouais, c'est exactement ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que c'est que ce Grumblethorpe ?»
Puis ce type m'a dit où c'était et j'ai dit « Ouais, je connais. »
« C'est une vieille baraque sur l'avenue, » précisa Leroy. « Vraiment vieille. Elle a été construite à l'époque où les Blancs portaient ces espèces de tricornes marrons. »
« Auprès de qui avez-vous recueilli ces renseignements ?» demanda Saul.
« Hein ?»
fit Leroy. « Lequel de ces types avez-vous cuisiné ?» interpréta Gentry. Marvin eut un large sourire.
Leroy, GB et moi, on est retourné là-bas à la tombée de la nuit. L'hélico était parti, mec. Alors on a attendu près des toilettes jusqu'à ce que ce type sorte. Il avait un petit flingue dans un étui passé à son falze. GB et moi, on a attendu qu'il ait baissé son falze avant de lui dire bonjour. Leroy a amené le camion près du mur. On a laissé le type finir de couler son bronze avant de l'emmener.
Où est-il à présent ? Demanda Gentry.
Toujours dans le camion du révérend Woods.
« Pourquoi ?»«
Je veux lui parler. »«
Pas possible, » dit Marvin. « Il dort. »«
Il nous a dit qu'il était un agent spécial, un technicien vidéo. »« Il nous a dit qu'il ne savait rien de ce qui se passait. »« Il nous a dit qu'il ne nous parlerait jamais et qu'on était dans la merde parce qu'on avait agressé un flic fédéral, ce genre de conneries. »« Leroy et GB l'ont aidé à parler. »« Jackson dit que le type n'a rien, mais pour le moment, il dort. »
« Et la Fuller se trouve dans un endroit nommé Grumblethorpe sur Germantown Avenue ?» dit Gentry. « L'agent en était bien sûr ?»«
Ouais, » répondit Marvin. « La sorcière vaudou habitait chez une autre vieille blanche dans Queen Lane. J'aurais dû m'en douter. Les vieilles blanches se serrent les coudes. »«
Que fait-elle à Grumblethorpe alors ?»
Marvin haussa les épaules. « Le Fédé dit qu'elle y a passé le plus clair de son temps la semaine dernière. » On pense que c'est de là que vient le monstre blanc.
Gentry se fraya un chemin à travers la foule pour se rapprocher de Marvin.
D'accord. On sait où elle se planque. Allons-y.
Pas encore, dit Marvin.
Il se tourna vers Leroy pour lui dire quelque chose, mais Gentry l'agrippa par l'épaule et le força à se retourner.
J'en ai marre de t'entendre dire pas encore. Nathalie Preston est peut-être encore en vie.
et elle est peut-être là-bas. On y va. »
Marvin le regarda de ses yeux de glace.
« Lâche-moi, mec. Quand on donnera l'assaut, je ne veux pas de fausses manœuvres. Taylor est en train de parler à Eduardo et à ses gars. GR et GB surveillent Grumblethorpe. Leila et les filles gardent l'œil sur tous les flics fédéraux.
« Alors j'y vais tout seul, »
déclara Gentry en tournant les talons.
« Pas question, » dit Marvin. « Dès que tu t'approcheras de la bicoque, tous les fédés vont te reconnaître et ton effet de surprise sera foutu. Tu attends qu'on soit prêt et tu restes ici, mec. »
Gentry se retourna. Marvin ne broncha pas lorsque le flic sudiste le domina de toute sa masse.
« Il faudra que tu me tues pour m'empêcher d'aller là-bas, » dit Gentry.
« Ouais, » fit Marvin. « Je sais. »
Il régnait dans la pièce une tension à couper au couteau. Quelque part dans le bâtiment, on alluma une radio et le son de Motown déferla durant quelques secondes avant d'être coupé.
« Rien que quelques heures, mec, » reprit Marvin. « Je sais ce que t'as, je suis passé par là. Quelques heures, on ira là-bas ensemble, mec. »
L'énorme carcasse de Gentry se détendit lentement. Il leva sa main droite. Marvin la grippa et leurs doigts s'entrecroisèrent.
« Quelques heures, » dit Gentry.
« D'accord, mon frère, » dit Marvin et il sourit. Gentry était assis sur un matelas du premier étage désert et nettoyait le rugeur pour la troisième fois de la journée. La pièce n'était éclairée que par une lampe à l'abat-jour cassée. La table de billard était maculée de taches sombres. Saul Lasky pénétra dans le cercle de lumière, regarda autour de lui d'un air hésitant, puis se dirigea vers Gentry.
« Salut, Saul, » dit Gentry sans lever les yeux.
« Bonsoir, shérif.
Vu les quelques péripéties que nous avons traversées ensemble, Saul, je vous serais reconnaissant si vous m'appeliez Rob. »«
Entendu, Rob. »
Gentry remit le barillet en place et le fit tourner. Concentré sur sa tâche, il inséra soigneusement les cartouches, une par une.
« Marvin est en train d'envoyer ses hommes sur le terrain, » dit Saul, « par groupe de deux ou de trois. »«
Bien. » »«
J'ai décidé d'accompagner le groupe de Taylor. Nous attaquerons le centre de contrôle. C'est moi qui ai suggéré cette cible, pour faire diversion. »
Gentry leva brièvement les yeux.
« Parfait. » J'aurais souhaité être présent quand ils captureront Melanie Fuller, continua Saul, mais je ne pense pas qu'ils aient conscience du danger que représente Colben.
Je comprends.
Ils vous ont dit à quelle heure ça allait commencer?
Peu après minuit.
Gentry posa son arme sur le sol et releva le matelas contre le mur. Il se croisa les doigts derrière la nuque et s'adossa à cet oreiller de fortune.
C'est le soir de la Saint-Sylvestre, dit-il.
Bonne année.
Saul ôta ses lunettes et les essuya avec un Kleenex.
« Vous avez l'air de bien connaître Nathalie Preston, n'est-ce pas ?»«
Elle n'est restée à Charleston que quelques jours après votre départ, mais oui, je commençais à bien la connaître. »«
Une jeune femme remarquable. J'ai l'impression de la connaître depuis plusieurs années. Une jeune personne très intelligente et très perspicace. »«
Ouais. »«
Il y a des chances pour qu'elle soit encore en vie. »
Gentry contempla le plafond. Les ombres qui s'y massaient lui rappelèrent les taches sur la table du billard.
« Saul, si elle est en vie, je la sauverai de ce cauchemar. »«
Oui, je vous en sais capable. Je vous prie de m'excuser, mais je vais dormir une heure ou deux avant le début des réjouissances. »
Il se dirigea vers un matelas placé près de la fenêtre.
Gentry garda longtemps les yeux fixés sur le plafond.
Plus tard, lorsqu'on vint le chercher, il était prêt.